C'est quoi un hélicoptère iranien?
Il y a des bateaux aussi.
Il y a des bateaux
des
qui sont
déjà.
Bref.
Il met des images, puis effectivement, c'est un genre de.
C'est un battle chip sur Truth Social.
C'est un avion qui se fait détruire par un bateau américain, puis là, il écrit Lasers, bing bing, gone! Ensuite, les bateaux iraniens. Qui ont été coulés par Obama et Biden. C'est des bateaux qui sont sur la mer. Et durant le mandat de Donald Trump, les 159 bateaux iraniens sont sous la mer, donc dans le fond de l'eau. Il s'amuse comme un petit fou, mais y a-t-il encore une attitude présidentielle, Donald Trump?
Non. Ben non, t'es juste un président, fais pas ça, là.
T'sais, le prochain, il va être beige en maudit, là.
C'est sûr que
oui, mais mais sûrement que les États-Unis vont avoir besoin de ce virage au beige.
Ça va peut-être faire du bien d'avoir un peu de beige, mais je le regardais s'amuser là, avec des images.
Pif, paf,
dit,
pouf, là.
C'est-tu encore le président des États-Unis qui est en contrôle de ses réseaux sociaux?
Ben, c'est parce qu'on dirait que...
Ben, c'est Y dans le Journal de Québec.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que ça ressemble à un vieux Batman des années 70. C'est paf, pouf, pouf!
Assez particulier. Luc La Liberté, chroniqueur politique américain, est avec nous et producteur des capsules Liberté en clair. Comment vas-tu, Luc?
Je vais bien mieux, semble-t-il, en tout cas, que le président américain. Et on parle beaucoup ces temps-ci, dans la dernière année, de réduire le temps d'écran de nos jeunes dans, ouais, dans les écoles. Je pense qu'il est temps de réduire le temps d'écran du président. À la fin, juste pour compléter ce que vous aviez lancé comme discussion, entre la fin de la soirée hier et 1h du matin, cette nuit, donc en 3 heures, il a déposé sur Truth Social, sur son réseau social, 55 entrées. Nous sommes dans les médias, nous sommes sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous arrive dans une journée complète, en très mauvais français, de poster 55 fois? Lui, il l'a fait en 3 heures. Et il dirige un des pays les plus influents de la planète.
Oui, qui est en conflit à certains endroits, qui est dans l'import-export, qui est en conflit aussi dans l'import-export à certains endroits, entre autres en Amérique. Mais on me dit que c'est pas lui qui tweet. Est-ce que c'est vrai?
C'est possible. On avait dit la même chose à l'époque où il était sur Twitter, puis là, on est plus dans le premier mandat.
Ouais.
On dit que c'est des gens qui sont familiers, bien sûr, avec le président, avec son style, et qui animent ses réseaux sociaux. Parce qu'on a beau faire des blagues sur le fait qu'il lui arrive de piquer un roupillon pendant des réunions, ça lui est encore arrivé depuis le début de la semaine, reste qu'il faut minimalement qu'il dorme et que c'est un homme qui approche les 80, donc un octogénaire. N'importe qui dirige les États-Unis a minimalement besoin de sommeil, de quelques heures de sommeil. Et quand on fait le cumul de ce qu'il dépose sur son réseau social, ça résulte à presque pas d'heures de sommeil et on le voit le jour. Donc, il est présent dans des réunions, dans des négociations. Donc, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui doit faire ses entrées ou produire ses entrées pour lui sur Truth Social.
Donc, ils prévoient ça dans la journée, qu'est-ce qu'ils vont poster pendant 24 heures, puis après ça, ben, on se lâche lousse pendant que le président peut se reposer un peu. C'est possible.
Et le plus important, c'est de faire tourner la machine puis d'aller chercher l'attention des médias parce que quand un président, j'écoutais Jeff tout à l'heure décrire les boum-boum et les pow-pow sur les navires, un, on s'entend pour dire que c'est tout sauf présidentiel, responsable. En gestion militaire, on n'enseigne pas ça non plus. Mais donc, l'important, c'est qu'on ne peut pas ignorer ça. Est-ce que je peux, si je prétends couvrir ça sérieusement, ignorer que le président fait du boum-boum, pow-pow sur son réseau social? On n'a comme pas le choix d'en parler et on le fait ce matin. Donc, c'est ce qui est important avec Donald Trump, c'est être omniprésent partout, tout le temps. Puis, ben, ça veut dire personne au même endroit, ça, aussi dans l'actualité. Alors, on devrait parler de l'Iran, on devrait parler de la Chine. Il y a un grand nombre de sujets, l'inflation, l'économie. Le président est très impopulaire ces temps-ci, entre autres sur le volet économique.
Ouais, il y a des signes de ralentissement actuellement, effectivement, aux États-Unis. Ouais. On apprend que la guerre, le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël, puis le détroit d'Hormuz aussi, ça laisse craindre le pire pour la suite. Ça coûte cher faire la guerre et Donald Trump est dans le trouble. Là, on parle presque d'une trentaine de milliards de dollars qui ont été engloutis actuellement dans le conflit avec l'Iran.
Ouais, les nouveaux chiffres, on est près de 35 milliards de dollars depuis le début. Il y en a qui avancent, les chiffres viennent du Pentagone, mais il y en a qui avancent que ce serait plus que ça. Et bien sûr, il y en a qui ajoutent au coût direct de la guerre les retombées économiques, financières pour les Américains. C'est pas rien, hein? Quand on arrive à 76 % dans les sondages, peu importe le sujet qu'on aborde en politique américaine, 76 % c'est un chiffre qui fait ouvrir les yeux, qui étonne. Et c'est 76 % des gens maintenant qui désapprouvent sa façon ou son attitude, sa façon de gérer l'inflation, le coût de la vie. Et rappelez-vous que c'est eux un des motifs qui fait qu'on voulait tasser Joe Biden et qu'on n'a pas voté pour Kamala Harris. Donc, c'était peut-être que ce n'est qu'une perception. Les chiffres disent que c'est plus sérieux que ça, mais même si ce n'était qu'une perception, au plan politique, c'est un sacré boulet pour les républicains qui se préparent pour les élections de mi-mandat.
Est-ce que Luke Donald Trump a perdu complètement ses réflexes face à son électorat quand il dit « Bon, moi, là, avec la guerre en Iran, je pense pas aux finances des Américains. » Il contredit complètement sa base.
Ouais, ça, c'est... Et on le voit, c'est plus que on pense que ou ça risque d'ébranler sa base, même si lui est encore majoritairement fidèle. Elle s'effrite. Il y a des gens qui en ont assez. Je viens de voir une vidéo, par exemple, c'est un sujet, là, on a l'air en périphérie, mais il avait promis aussi, ses fils ont promis de mettre sur le marché un Trump phone. Hein, on pouvait commander ce téléphone doré. Bien là, il semble qu'on ne pourra même pas produire le téléphone pour lequel les gens ont déjà vendu. Et là, il y a des gens qui étaient des pro-Trump, ce qu'on appelle des MAGA, qui sont en colère et qui sont déçus. Mais leur voix s'ajoute à celle d'autres MAGA, puis d'influenceurs en périphérie du mouvement MAGA qui décrochent. Et il n'en faut pas beaucoup pour que ça coûte très cher aux républicains. Si vous perdez les démocrates, on prend pour acquis qu'il n'y en a pas qui vont... À la rigueur, un démocrate va rester chez lui plutôt que d'aller voter, mais il ne va pas voter Donald Trump. Mais si vous cumulez les indépendants, les indécis, les républicains déçus et les MAGA qui, même en faible pourcentage, quittent le président... On est en année électorale. Ça ne regarde pas bien. On peut bien redécouper les cartes électorales pour tenter de trouver ou de créer plus de circonscriptions potentiellement républicaines, mais ça ne suffit pas à compenser.
Ben non, c'est ça. Ça a une limite, là, à un moment donné, là.
Ben voilà, il y a une limite à créer de nouvelles circonscriptions et ce n'est pas dit non plus que ces nouvelles circonscriptions, elles vont forcément tomber dans le camp républicain. Ce dont on est certain aujourd'hui, quand on regarde les sondages, c'est que ça va pas juste mal, ça va terriblement mal pour les républicains. Il reste des mois, on s'entend, mais le portrait aujourd'hui, notre capture d'écran du 13 mai, si je suis un stratège républicain, qu'est-ce que j'aime pas ça?
Mais j'imagine que le livre est écrit d'avance, là. Ça va être le 3 novembre 2026, les élections de mi-mandat, c'est bien ça?
Oui, le prochain échéance électorale, donc novembre.
Donc, j'imagine que dans les semaines précédant cette date-là, il y aura des belles grosses surprises de la part de Donald Trump. Il va régler une bonne partie des conflits qu'il y a. Peut-être en savoir plus sur le Venezuela, peut-être en savoir plus aussi sur le sort de Cuba qui est en train encore une fois de se mourir. Là. Ça fait des années, ouais. Des années que Cuba se meurt. Là, ce qu'on me dit sur place, c'est que c'est catastrophique.
Alors, ce serait la pire crise humanitaire présentement à Cuba. Et tu l'as dit, c'est pas parce qu'on n'a jamais évoqué des crises humanitaires ou des problèmes pour la population cubaine. Ouais. Mais tu vois, ce que je vois, moi, dans les chiffres, ça vient valider ou appuyer ce que toi, tu entends de ton côté.
Est-ce que Trump a réellement considéré Venezuela comme étant le 51e État, comme il le fait avec le Canada? Puis est-ce que ce sera Cuba le 51e État? On s'amuse encore là, du côté de Donald Trump. Quel impact que ça peut avoir au Venezuela quand on voit que Trump s'amuse à redessiner sa carte, la carte de son pays?
Ben écoute, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on ne deviendrait que le 53e État. Ça veut dire qu'on retarde donc l'entrée du Canada. Mais plus sérieusement, encore une fois, avec Donald Trump, on ne peut jamais ignorer une déclaration, mais ensuite, on essaie de tasser la boucane, hein, ou on essaie de tasser, de dissiper la brume un peu. Le régime vénézuélien, c'est très clair, n'a aucune intention, donc, de se tourner à ce point du côté américain. On ne peut pas les intégrer de force non plus. Donc, uniquement dans le processus, de façon très, très pragmatique et terre à terre, ce que le président a affirmé ou ce qu'il a montré dans son entrée sur Truth Social en publiant ou en diffusant cette carte associant le Venezuela à un 51e État, dans la pratique, C'est pas impossible, mais la marche est drôlement haute. Ce que ça montre, par contre, et là, on peut ajouter Cuba à l'équation, ce que ça montre, c'est qu'effectivement, le président va de l'avant en appliquant la nouvelle politique de sécurité nationale des États-Unis. On l'avait résumé plus simplement il y a quelques semaines déjà, mais en gros, les États-Unis veulent s'assurer d'avoir la main mise sur les Amériques, l'Amérique du Nord jusqu'au Sud. Ils veulent éviter finalement les intrusions d'étrangers. On n'aime pas, par exemple, du côté américain, que la Chine soit présente en Amérique, qu'elle se soit invitée avec le Mexique, que Mark Carney fasse les yeux doux, ou en tout cas, qu'on assouplisse les relations, qu'on ouvre un peu à la Chine. Et ce que le président passe comme message dans ce temps-là, c'est relisez notre politique de sécurité nationale. Et ce que je fais, ce que je dis, c'est conforme avec ça, sans nécessairement qu'on aille jusqu'à ajouter à l'Union américaine le Venezuela ou Cuba.
Annexer Cuba, ça va-tu être chose facile pour Donald Trump? Est-ce qu'il va avoir le temps de le faire dans la deuxième portion de son mandat?
On peut faire, dans le cas de Donald Trump, c'est faire ce que les Américains ont déjà fait avec Cuba. C'est-à-dire que ça a été une forme de protectorat. On l'oublie, mais quand Cuba obtient son indépendance, les Américains sont déjà présents. Ils ont même intégré une clause dans la Constitution cubaine. C'est de là que vient, entre autres, Guantanamo, la base militaire, mais le territoire réservé aux Américains. Ce qu'on peut faire, donc, c'est favoriser un changement de régime et placer, finalement, directement et indirectement, Cuba sous direction ou influence américaine. Donc, ce qu'on pense faire, ce qui est sur la table du président, on lui a présenté ces projets-là, c'est d'envoyer des navires de guerre près de Cuba, mais de ne pas faire débarquer de militaires sur le terrain. Donc, l'idée, c'est d'avoir une présence militaire, d'ajouter la pression ne serait-ce que militaire, mais d'ajouter, puis là, ben, vous vous dites, ça va de mal en pis et vous avez raison, d'ajouter de nouvelles sanctions à l'endroit de Cuba. Et Marco Rubio a été très clair, ce régime-là, c'est un régime communiste, ce sont de mauvais gestionnaires communistes. Grosso modo, on a tout intérêt à ce que le gouvernement tombe.
Est-ce qu'on pourrait faire un peu ce qu'on a fait avec Puerto Rico? Garder le statut d'État libre, mais sous la gouverne des États-Unis?
Ça, ce serait dans une autre étape. Mais assurément, les Américains, pour des intérêts stratégiques et des intérêts économiques, tu vois, tiens, allons-y comme ça. C'est en droit international, ce que fait le gouvernement américain, ce que fait Donald Trump ne tient pas la route. C'était vrai pour le Venezuela, c'est vrai pour Cuba aussi. Mais si on prend pour acquis que Donald Trump ne respecte ni le droit international, ni même parfois les propres lois à l'intérieur du pays, il va aller de l'avant. Si on ne parle que de politique, de hard power, de politique dure, ferme, Donald Trump fait un geste qui est conséquent avec sa politique de sécurité nationale. Et je serais même étonné que son successeur, donc en 2028, on va avoir quelqu'un d'autre que Donald Trump qui va être élu, il va entrer en fonction, ou elle va entrer en fonction en 2029, je serais même étonné qu'on revienne sur ce que Donald Trump a fait. Donc, on va en faire porter l'odieux ou le fardeau à Donald Trump, mais de contrôler des zones comme le Venezuela ou Cuba, disons entre guillemets que ça sert bien les intérêts américains. Mais je répète, c'est en contravention d'un tas de choses. Faut pas avoir beaucoup d'intérêt pour la loi, la morale et l'éthique pour endosser ça. Mais il y a quand même quelque chose de logique dans cette démarche-là de la part du président américain.
Ah, je trouve ça intéressant. À la suite de Donald Trump, on remet pas ça tout à zéro. On va continuer le travail qu'il a déjà fait. On va le terminer et on va dire tout ça, c'est de la faute de Donald Trump. On n'avait pas le choix de le faire. On avait investi énormément de temps à cet endroit-là.
Les Américains ont fait ça quand on revient un petit peu dans le temps, fin 19e, début 20e siècle. C'est ce qu'on appelait en gros la doctrine de Monroe, puis on a fait évoluer ça sous le président Roosevelt, mais sans donner le cours d'histoire au complet. Grosso modo, c'est on se garde les Amériques comme sphère d'influence, quitte à, et ça c'est arrivé avec Theodore Roosevelt au début du 20e, quitte à servir de police parfois ou à utiliser l'armée pour stabiliser. Et là, c'est moins chic. Le président Roosevelt considérait, lui, que c'était des républiques de bananes, un certain nombre de pays indépendants d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Et il disait, on va aller stabiliser la région. C'est ce qu'on appelait la « big stick policy », la politique du gros bâton en français. Parler doucement, mais porter un gros bâton. Ben, on est à revisiter, finalement, cet épisode-là. Mais rappelez-vous, sur le fond, ça sert stratégiquement, économiquement, les intérêts américains. Et je me répète, c'est important, mais ça veut dire qu'on oublie tout le reste. Ça veut dire qu'on se fout un peu des règles du jeu habituelles. Mais c'est un peu le monde dans lequel on est présentement. Quand on regarde sur la scène internationale, est-ce que ça vaut la peine encore d'avoir des traités, d'avoir de grandes organisations, quand on constate que même un joueur comme les États-Unis ne respecte pas ça et défie ça constamment? Ça a toujours été un drôle d'équilibre, ça, hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, s'en remettre à de grandes organisations centrales puis à des traités. Mais les traités, c'est un peu comme la démocratie. Si on n'y croit pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Et que vaut, sur la scène internationale en 2026, la parole de Donald Trump ou les engagements des États-Unis?
Merci, Luc.
Un grand plaisir, une bonne journée.
Ben, salut! Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair qui était avec nous. La capsule va être disponible tantôt sur le site de blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard 102.1. All right, il est 9h03, vous êtes sur les ondes de Boulevard, on est avec vous jusqu'à 10h. C'est quand même incroyable, tu sais, je suis en train de réfléchir à la discussion qu'on avait avec Luc, là, tu sais, pendant ce temps-là, avec tout ce que Donald Trump fait, on parle plus de la guerre entre Poutine puis Volodymyr Zelensky.
On parle plus de la guerre en Ukraine.
Il y a juste au Canada où on sait que cette guerre-là existe encore parce qu'on prend l'argent des Canadiens puis on envoie ça là-bas, fait que là, ok, ça fonctionne encore, mais Trump ne pourra jamais être légitime de dire à Poutine « Hey, t'as pas le droit d'aller chercher une portion de territoire
ben non,
alors que lui, de son côté, tente de le faire. »
Tente de le faire au Venezuela, tente de le faire à Cuba, puis là, avec Israël, attaque l'Iran. Donc, Trump reproduit les gestes de Poutine, alors il peut pas se mettre en pacificateur de ce dossier-là.
Toi, t'as l'énergie de faire de la politique, là, mais moi, je regarde aller, là. Je me dis, ces gars-là, ces filles-là qui travaillent en politique, ça doit être hallucinant. C'est un feu roulant.
Ben oui, c'est un feu roulant, puis ça doit être d'autant plus un feu roulant quand...
Que tu dois oublier des conflits, des fois.
Oui, puis quand tu fais partie d'une administration qui fait tout et son contraire, puis là, tu sais, là, c'est facile avec Trump, on vient d'en parler avec la guerre, mais il fait juste prendre la CAQ, là. 500 millions pour les PME la semaine dernière, mais là, 1,1 milliard pour un projet d'une entreprise étrangère dans le lithium.
Exact.
Fait que là, t'es au sein de ce gouvernement-là, toi, là. Là t'es un sous-ministre à l'économie, là. Tu fais quoi? T'as deux choses et son contraire qui se produisent en même temps.
Ouais.
Donc, ça doit être mélangeant pas à peu près, là.
Mais quand même, on est rendu à 35 milliards... Américains engloutis dans le conflit en Iran, les Américains commencent à ruer d'un brancard parce qu'ils disent oh,
ben ouais, oui.
L'économie est en train de virer au ralenti, tout va augmenter, c'est pas le temps, ils s'en vont en mi-mandat dans quelques mois. Moi, je suis persuadé, puis ça, c'est mon petit côté complotiste, là, je suis persuadé que le cahier est écrit d'avance, puis dans les prochains mois, plus on va avancer vers les midterms, plus les problématiques mondiales qui impliquent les États-Unis vont être réglées.
Bien, c'est clair que le cahier politique est pas mal toujours écrit de la même façon. On prend les décisions difficiles dans les premières années du mandat, puis après ça, on récompense la population pour tenter d'être réélu. Aux États-Unis, il y a cette particularité-là des élections de mi-mandat. Donc, ça fait en sorte que le cahier politique ne peut pas être écrit sur 4 ans, mais sur 2 ans.
Ouais.
Mais oui, tu sais, si Donald Trump est un fin stratège, comme il l'a dit, « art of the deal », ben il n'a pas le choix là, de commencer prochainement, juin, juillet, tu sais, peut-être juillet aux alentours de la fête des Américains, de commencer à redonner à la population pour arriver sur un élan au midterms.
C'est bien fait pareil. 9h06, vous avez les choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. C'est par texto, il se passe quoi que ce soit sur la route. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. S'est-tu passé d'autre chose? Je vois Alexandre Boulris là, qui cause un
ouais,
malaise.
Oui, ben c'est Alexandre Boulris qui a écrit, et puis là, je vais aller le rechercher. C'est Max qui nous a envoyé le tout. Boulris a écrit « PSPP se dit obligé de présumer que le fédéral les espionne, lui et le PQ. La bonne nouvelle, c'est que je suis sûr que ça se soigne. »
Il l'a traité de malade mentale.
Oui, exactement.
S'il y a une constance dans l'histoire du Parti québécois, c'est que le chef et les élus influents sont espionnés.
Donc, Boulris traite le chef du Parti québécois de malade mental.
En plein ça.
Wow!
C'est ça.
C'est la gang de Québec solidaire, ça, Boulris, hein?
Ouais. Ça va bien dans le camp des souverainistes.
Ben, c'est le mot espionnage.
Ben oui.
C'est un mot qui est quand même assez extrême. Est-ce que les autres partis tentent de savoir qu'est-ce qui va se passer au Parti québécois? La réponse, c'est oui.
Oui.
Est-ce que les partis fédérales, le parti fédéral de Mark Carney tente de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer devant le cas d'une victoire du oui? La réponse, c'est oui.
Ben oui.
C'est sûr, mais le mot espionnage, c'est lourd un peu parce que là, ça implique la CIA, ça implique le SCRS, même si ça n'a rien à voir avec la CIA, le SCRS, le Service de renseignement canadien, ça implique la GRC comme dans les années 80. J'aurais jamais utilisé le mot espionnage.
Moi non plus.
Mais est-ce que PSPP, quand il jase dans un Tim Hortons avec quelqu'un, y a-tu quelqu'un qui est à côté pour savoir de quoi il jase, puis je pourrais-tu savoir des affaires que normalement on n'est pas supposé de savoir? C'est sûr qu'il est surveillé.
Ah oui, mais le fait est qu'on n'est pas dans un climat politique comme dans les années 70 où les bombes explosaient.
Exactement. Quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est un artiste, lui, Alexandre Boulris?
Non, du tout.
Non, non, c'est un...
politicien de carrière.
Ouais, c'est un député fédéral qui s'en vient chez Québec solidaire au provincial. Il était pour le NPD. 9h08, courte pause, on vient. Pour nous informer...